Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
François-Joseph Talma fut le plus grand acteur de son époque, le plus célèbre de tout Paris sous l'Empire. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce comédien fut aussi un homme engagé, révolutionnaire dans sa jeunesse, puis proche de l'empereur Napoléon. 200 ans après sa mort, nous lui consacrons une émission aujourd'hui pour comprendre comment le théâtre est devenu chez lui une caisse de résonance des grands questionnements politiques de son temps et pour explorer sa relation si particulière avec Napoléon. Pour en parler, Vivien Richard, conservateur du patrimoine au musée des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, ancienne résidence des Bonaparte. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et vous êtes également commissaire de l'exposition Talma et Napoléon, que l'on peut découvrir jusqu'au 30 septembre prochain au musée national de la maison Bonaparte en Corse. Alors, inutile de présenter Napoléon, on va s'arrêter un instant sur Talma, avant de parler de sa relation très particulière avec Napoléon. Ce comédien est de son vivant, je l'ai dit en introduction, l'acteur le plus célèbre de son époque. Il entre à la Comédie française et il en devient même sociétaire à partir de 1789, une date éminemment politique dans l'histoire de France, une date qui tombe à pic pour lui, puisque lui-même a des sympathies révolutionnaires. Chez lui, le théâtre a toujours été une affaire politique, chez Talma.
Dès le départ, dès son entrée à la Comédie française, oui. On voit cette prégnance en fait, du politique. Bien entendu, les événements révolutionnaires, dès 1789, vont accompagner et faire monter en fait, cette dynamique politique autour de Talma, puisque très vite après son entrée comme sociétaire de la Comédie française, il joue le rôle titre de la pièce Charles IX de Chénier, où très vite, derrière cette figure de Charles IX, on perçoit en fait, la figure de Louis XVI et une critique de la monarchie et du pouvoir royal dans cette période d'effervescence révolutionnaire. Et ça va amener aussi beaucoup de débats, de tensions au sein de la troupe de la Comédie française.
Parce que cette pièce fait scandale.
Très vite, les choses se coupent entre des partisans de la Révolution française, les adversaires de la Révolution française. Talma est plutôt du côté des partisans et ça va amener en 1791 à une coupure, l'unique coupure de l'histoire de la troupe qui va durer durant 8 ans. Et Talma va donc quitter la Comédie française avec d'autres condisciple dans un mouvement qui est très politique, mais qui va aussi s'incarner dans le théâtre.
François-Joseph Talma va rencontrer Napoléon, l'empereur. Les circonstances de sa première rencontre avec Napoléon sont très floues. La rencontre aurait lieu, alors j'ai vu deux dates, soit 1794, soit 1795. Est-ce qu'on en sait plus ?
Alors, cette incertitude, en fait, est voulue.
Napoléon
et Talma ont été très, très discrets autour des circonstances de leur rencontre. Au vu de la chronologie des événements révolutionnaires, de la présence aussi à Paris de Napoléon, il semble difficile qu'elle ait lieu avant mai 1795. Mais ce qui a indiqué parfois qu'elle aurait pu être antérieure, d'où le fait que 1794 apparaisse, c'est que leur relation semble très vite, en fait, les lier, puisqu'à l'automne 95, on a de la correspondance entre des commentaires de pièces de théâtre jouées par Talma que lui envoie Bonaparte. Et ce flou chronologique a aussi entretenu des légendes autour de cette rencontre qui ont fait florès dès l'époque de l'Empire. Et bien sûr, pour critiquer en creux Napoléon, que Talma lui payait ses billets d'entrée au théâtre, qu'il lui a même prêté des vêtements. D'ailleurs, c'est l'image du pauvre général monté à Paris.
Et c'est parce que Napoléon, ce qu'on n'a pas dit, est un grand amateur de théâtre. Même empereur, il a le temps d'assister à des représentations. Je crois qu'il y va toutes les semaines au théâtre.
Alors, c'est une tradition familiale chez les Bonaparte, vraiment la littérature, le théâtre, déjà très présente chez le père de Napoléon, Charles Bonaparte, qui a irrigué donc sa vie familiale, son éducation, une grande passion pour le répertoire classique et pour ce qui est des pièces françaises, Corneille en premier, mais également Racine. Et en moyenne, en effet, Napoléon, sous le Consulat et l'Empire, arrivera à aller une fois par semaine au théâtre, aussi bien pour voir des pièces classiques que des créations contemporaines.
Et il aime, vous l'avez dit, particulièrement les figures du théâtre antique. Qu'incarne notamment Talma.
Des pièces antiques ou des figures antiques reprises dans des pièces du répertoire classique français, puisque là, c'est vraiment ce rôle du théâtre, on va dire, dans la puissance, l'image impériale, qui va avoir un rôle fort, puisqu'il s'agit de mettre en avant des figures de vertu, de courage, de puissance, de souveraineté. Et derrière, on voit bien sûr une image du pouvoir napoléonien.
Alors, il existe une véritable admiration mutuelle entre Talma et Napoléon. Napoléon est vraiment fasciné pour le jeu d'acteur. Napoléon d'ailleurs critique Talma, lui donne des conseils d'interprétation sur son jeu scénique. Ils ont cette proximité-là.
Oui, ils ont une proximité réelle, une vraie connivence littéraire et théâtrale qui remonte vraiment à la période de leur rencontre à partir de 1795 et qui va durer jusqu'à en fait, leur séparation par l'exil final de Napoléon vers Sainte-Hélène, mais qu'on le retrouve dans leur fidélité qui continuera encore quelques années puisqu'ils se rencontrent régulièrement. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon explique que Talma venait au moins une fois par mois, si ce n'est plus, dans les palais impériaux à la demande de l'empereur, donc soit sur des moments de dîner de Napoléon, donc notre actuel déjeuner, ou bien pendant des périodes de pause. On a les deux témoignages qui sont là, mais qui nous permettent de confirmer que régulièrement, Talma était bien invité au plus près de l'empereur, parfois seul avec lui, pour discuter donc politique, histoire, théâtre. Et théâtre, pour Napoléon, le moyen, c'est d'avoir toutes les informations sur la scène théâtrale du moment, mais aussi de revenir sur le jeu de Talma, lui proposer des conseils, notamment pour le rôle de Néron dans Britannicus de Racine, qui est un des grands rôles de Talma et qui va beaucoup attirer l'attention de Napoléon.
Et c'est ce qu'il lui dit, Napoléon ?
Non, on ne le sait pas. Il y a quelques remarques, par exemple, qui émanent de certains mémorialistes ou témoins, comme ils étaient en général seuls. Il y a bien sûr peu de choses sont sorties. Lorsque c'était avec quelques personnes présentes, bien sûr, les choses sont différentes. Et notamment lors de l'entrevue d'Erfurt en 1808, il y a eu une représentation notamment de Néron, justement, qui a déplu à Napoléon. Et il l'a fait savoir dès le lendemain à Talma que tel mouvement, tel jeu lui semblait totalement discordant avec le projet théâtral sous-jacent qui était mis en œuvre.
Alors, on a d'un côté Napoléon qui analyse finement les rôles de Talma. De l'autre côté, j'ai lu que Talma aurait donné potentiellement peut-être des cours de déclamation à Napoléon, c'est vrai ?
Alors, ça fait partie de toutes ces légendes urbaines et parisiennes qui ont cours dès l'Empire. La reine Hortense, donc la fille de Joséphine, donc fille adoptive de Napoléon, en parle dans ses mémoires pour vraiment nier ce type d'échange entre Talma et Napoléon, qui va prêter le flanc aussi à la critique, mais à la réalisation de gravures de caricatures, notamment en Angleterre, nous montrant un Napoléon un peu presque simiesque dans ses mouvements, qui suit les cours du grand Talma habillé à l'Empire. Donc on voit très vite que derrière ces légendes, il y a aussi un jeu politique qui se met en œuvre. Mais il est difficile d'imaginer Napoléon se tourner même vers le plus grand des comédiens, bien sûr, mais se tourner vers un comédien français pour des leçons de dignité, de pose, de prestance, d'éloquence dont il n'avait sans doute guère besoin, en tout cas de la sorte.
En tout cas, il y a une forme de résonance entre ces deux personnages. Ce sont deux bêtes de scène qui sont toujours en représentation.
Oui, et on peut voir des similitudes dans leur parcours. Alors déjà, on ne l'a pas évoqué, il y a une forte ressemblance physique entre eux, qui a marqué vraiment les contemporains. Des estampes les représentent avec des visages très proches.
Dans quoi ? Dans la morphologie, la forme
dans
du visage ?
Dans le visage. Plutôt dans le visage. Donc il y a déjà cette ressemblance physique, mais surtout un peu le parallèle de leur parcours, une ascension chacun dans son domaine personnel, le théâtre pour l'un, l'armée, la politique jusqu'au trône pour l'autre. Puis quand ils se rencontrent, alors Talma est déjà très, très célèbre, Bonaparte n'est qu'encore que général, mais très vite, nous allons arriver vers la campagne d'Égypte, le coup d'État du Brumaire, le consulat. Et leur relation va rester vraiment fidèle tout au long de ces années. À la fin de sa vie, Talma confirmera que, bien sûr, il n'a pas pu garder la même relation directe avec, comme disait, l'officier d'artillerie, devenu ensuite premier consul, puis empereur, mais une permanence néanmoins dans tous leurs échanges, ce que Napoléon confirmera depuis Sainte-Hélène, en se mettant aussi un petit peu à distance. Bien sûr, il ne faisait pas société, c'est ce que disait Napoléon à la fin avec Talma, mais qu'il avait une grande estime pour lui, et son premier valet de chambre, Constant, ira un petit peu plus loin qu'une simple estime. Il dira qu'il y avait une vraie affection néanmoins de Napoléon pour Talma. Napoléon aura toujours une grande sollicitude pour lui, avec des émoluments, des gratifications, se tourner vers lui pour mener de grandes tournées
impériales. Une
amitié,
on peut parler d'une amitié ?
On peut parler d'une amitié, mais avec des adjectifs dans ces cas-là. Je pense vraiment une amitié vraiment théâtrale et politique.
Alors, justement, le théâtre, c'est une affaire sérieuse. Pour Napoléon, ce n'est pas juste un passe-temps, il le voit comme un outil aussi au service de sa diplomatie. Et cela va se traduire très concrètement en 1808 avec le congrès d'Erfurt en Allemagne. Qu'est-ce que c'est exactement ce congrès ?
Alors, donc, le congrès d'Erfurt, c'est une grande réunion diplomatique pour réunir les souverains d'Europe, et au premier rang desquels le tsar Alexandre de Russie, mais de très nombreux autres souverains, princes, notamment allemands, pour revoir l'équilibre européen à la suite des échanges diplomatiques précédents et bien sûr de campagnes militaires. Pour asseoir son prestige depuis Paris, en arrivant à Erfurt, Napoléon a souhaité, comme il le faisait déjà depuis plusieurs années, depuis le début du consulat, être accompagné d'acteurs de la Comédie française parmi les plus prestigieux, et notamment Talma. Et Talma, dès qu'il a eu vent qu'il y avait ce projet d'Erfurt, a bien sûr fait savoir à Napoléon qu'il voulait en être et non des moindres. Et donc c'est d'accompagner toute l'entrevue d'Erfurt, on va dire ce sommet tel qu'on l'entend aujourd'hui, par des soirées théâtrales avec le grand répertoire français de Paris.
Donc ils jouent principalement des grandes tragédies classiques. On sait quelles pièces exactement sont jouées. Vous en avez cité une tout à l'heure.
Alors, les pièces jouées lors de ce congrès sont emblématiques en général du répertoire qui accompagne ce type d'événement. Donc à la fois des pièces vraiment du répertoire classique et puis des pièces plus récentes, si ce n'est contemporaines. Donc à Erfurt notamment, deux pièces ont émergé. La très classique désormais pièce Britannicus de Racine, où Talma joue encore et toujours le rôle de Néron et qui va donc amener des critiques de Napoléon sur vraiment l'affrontation qui aura lieu ce soir-là et de la manière dont Talma va jouer. Mais également la pièce Œdipe de Voltaire. Chateaubriand, dans Les Morts d'Outre-Tombe, revient sur cette représentation où il y a eu un moment très fort, puisque lors de la déclamation par Talma du vers « L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux », le tsar Alexandre se serait levé pour se tourner vers Napoléon et lui serrer la main. Donc vraiment, là, le théâtre devient vraiment le signe, se fait le héros de la vocation diplomatique et politique du moment donné.
Voilà. C'est un grand succès.
Voilà, et c'est un très grand succès. Et on a parlé pour cette entrevue d'Erfurt et ces représentations théâtrales de Talma du parterre des rois, puisque devant lui, une grande partie des souverains européens et des régions allemandes étaient présents.
Alors, l'amitié perdure entre Talma et Napoléon, même pendant l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène ?
Alors, l'amitié entre Talma et Napoléon perdure au-delà de la première abdication, déjà. Puisqu'en 1814, quand Napoléon est contraint d'abdiquer pour la première fois, Talma lui écrit une magnifique lettre d'adieu qui est poignante, où on retrouve tout le jeu de Talma, dans l'exercice des sentiments, même l'art oratoire, mais cette fois-ci par écrit, pour témoigner à Napoléon toute sa fidélité, toute son affection. Il reconnaît entre les lignes qu'il va perdre les largesses impériales, mais que ce n'est rien à côté du départ de Napoléon, de l'abandon que va connaître la France désormais, et des périodes d'incertitude. Donc une très très belle lettre.
Eh bien, je vous propose de nous lire un extrait de cette lettre donc de Talma adressée à Napoléon d'avril 1814.
Sire, pardonnez-moi si je saisis l'occasion qui m'est offerte de vous écrire. Mais mon cœur a besoin de se soulager, mais j'ai besoin de mettre à vos pieds le tribut de mes larmes et de mon affliction profonde. Sire, je ne vous verrai plus. Cette bienveillance si honorable pour moi, qui me permettait de vous approcher quelquefois, m'est donc ravie pour toujours. Tout est évanoui pour moi. Ah, sire, Dieu m'est témoin que l'aisance qui m'est ôtée et dont je jouissais par vous est bien loin d'occuper maintenant ma pensée. Mes regrets ont une source plus douloureuse et plus pure. C'est votre personne, c'est vous seul que je pleure. Ma mémoire vous sera fidèle et jamais, non jamais, je ne serai rangé parmi les ingrats que vous avez faits. Le malheur, le sort qui vous a trahi n'ont fait qu'accroître mon attachement à votre personne et vous ont rendu, s'il m'est possible, plus grand et plus vénérable à mes yeux. Sire, mon cœur vous suit, recevez les vœux que je fais pour la tranquillité de vos jours, ainsi que l'hommage du profond respect et de l'inviolable attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'être, sire de votre majesté, le plus fidèle et le plus désolé serviteur. Talma. Napoléon ne répondra pas directement, mais un an plus tard, durant les 100 jours, à laquelle il répondra en invitant Talma aux Tuileries pour faire une sorte de réponse orale. Et là, pour la première fois, ils ne parleront pas du tout théâtre ensemble. Talma témoigne qu'ils ne parlent que histoire et politique. Dans ce temps très particulier de l'histoire de France que sont les 100 jours. Et même si ce n'est que 100 jours, Napoléon reviendra le voir jouer aussi sur la scène de la Comédie française.
Alors jusqu'à la fin, Talma restera fidèle à Napoléon. Il sera d'ailleurs toujours associé par le grand public à l'empereur. Empereur qui va décéder en exil sur l'île de Sainte-Hélène en 1821. Alors de son côté, Talma, il poursuit sa carrière. Il revient sur les planches, l'année du décès de Napoléon d'ailleurs, puisque le metteur en scène Étienne de Jouy lui propose de jouer dans sa nouvelle pièce. Nouvelle pièce qui n'est pas sans écho à Napoléon.
Donc à la fin de l'année 1821, toute fin décembre, Étienne de Jouy présente la première de sa nouvelle pièce, Scylla, dont le rôle-titre est endossé par Talma. Donc bien sûr, Talma ne joue pas Napoléon.
Oui, Scylla, c'est une figure de l'Empire romain.
Voilà, une figure antique. Voilà.
Une figure antique.
Donc, et pour jouer cette figure antique, Talma se grime comme en Napoléon. Il est un peu difficile, selon les sources, de voir si ça a été volontaire ou pas. Est-ce que c'est juste la coupe de cheveux pour cette pièce qui a donné cette impression? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'il est apparu sur scène, et on a les témoignages, Stendhal, Dumas, toute la foule présente a cru voir le spectre de Napoléon entrer sur les planches. Voilà. Et donc, c'est devenu une sorte d'hommage vivant, posthume, de Talma envers Napoléon. Et cette fidélité de Talma envers Napoléon va se marquer de plusieurs manières aussi. À partir de cette date, il prend la décision de ne plus jouer le 5 mai, jour anniversaire de la mort de l'empereur. Mmh. Et l'on voit dans sa collection personnelle, donc sa bibliothèque ou son cabinet, qui seront vendus après son décès, une forte prégnance de la culture et de la présence napoléonienne. Il achète la première édition bruxelloise du mémorial de Sainte-Hélène. Beaucoup d'autres ouvrages sur la geste napoléonienne sont présents dans sa bibliothèque. Il garde précieusement un dessin du sacre de David, hein, qu'il lui a offert David dans son cabinet. Et il a également une très grande estampe reprenant le célèbre tableau de Napoléon Bonaparte en bicorne, la main dans le gilet, qui pose devant le château de Malmaison, du côté parc, une œuvre d'Isabée, reprise en estampe. Et cette estampe est visiblement accrochée au-dessus du lit de Talma, puisqu'on le voit sur le tableau de Robert Fleury, les derniers instants de Talma. Cette estampe est au-dessus du lit du mourant. Donc il y a vraiment jusqu'à la fin cette fidélité à Napoléon dans la vie de Talma.
Talma disparaît quelques années après Napoléon, il décède en 1826. Il joue dans beaucoup d'autres pièces après, ou son rythme ralentit à partir de 1821?
Alors, la pièce Scylla d'Étienne de Jouy va devenir emblématique. Après la mort de Talma, c'est dans ce rôle qu'il est représenté dans la grande sculpture de David d'Angers, qui va être réalisée, qui pour toujours va figer cette image d'un Talma très antique et napoléonien en même temps. Mais ce n'est pas du tout la fin de sa carrière, il ne mourra qu'en 1826, donc durant 5 ans, il va encore multiplier les représentations avec des reprises de pièces du répertoire français, ou bien des créations contemporaines. Il y en aura même jusqu'à son décès, puisqu'en 1826, année de sa mort, il va connaître encore un très grand triomphe dans la pièce Charles VI de la ville de Miremont.
On va passer à l'exposition, puisque Vivien Richard, je le rappelle, vous êtes commissaire de l'exposition Talma et Napoléon, que l'on peut découvrir à Ajaccio, en Corse, au Musée national de la Maison Bonaparte. En quelques mots, qu'est-ce que les visiteurs peuvent y découvrir dans cette exposition ?
L'exposition proposée à Ajaccio a pu être montée grâce à un partenariat exceptionnel avec la Comédie française, qui a prêté certains des chefs-d'œuvre de ses collections liés à Talma. Et donc, avec Elisabeth Caude, directrice de Malmaison, et qui assure la direction de cette exposition, dont j'ai la charge du commissariat en collaboration avec Jean-Marc Olivesi, conservateur à la Maison Bonaparte, nous avons voulu bâtir un propos en deux temps. Un premier qui revient sur le parcours théâtral de Talma, la réforme du jeu scénique qui l'entraîne à la suite de l'acteur Lequin sous le règne de Louis XV, mais dans les pas duquel il se met pour venir réformer aussi bien le costume de scène, l'art déclamatoire, la gestuelle corporelle et les décors en lien avec le peintre David. Tout ça était pour nous un axe fort. Et la Comédie française nous a notamment prêté le manuscrit de Talma, qu'il a rédigé à la fin de sa vie, ses réflexions sur le jeu de scène de l'acteur Lequin, dans lequel, en fait, il se met en perspective et où il revient sur les évolutions techniques, mais qui sont toujours une chose et qui ne sont rien si on n'a pas le talent non plus. Et que la technique seule n'apporte rien. Il est absolument nécessaire aussi qu'il y ait un jeu de l'acteur autour des sentiments et qu'il doit savoir exprimer, transmettre au public. Et puis, en jonction entre cette thématique de l'exposition et la deuxième thématique qui est pleinement sa relation avec Napoléon, nous présentons la couronne de Talma, qui est réputée avoir été offerte par Napoléon à Talma, qui est un des chefs-d'œuvre des collections de la Comédie française et qui a donc pu venir à Ajaccio. Donc la couronne qu'il portait pour des représentations de la pièce Britannicus de Racine, pour son rôle de Néron, et qui est emblématique à plus d'un titre, bien sûr autour de la parure théâtrale, aussi des techniques de joaillerie parisienne, mais également parce qu'elle est très proche de la couronne du sacre de Napoléon. Donc là, on voit aussi un parallèle de l'empereur français et de celui qui aura plusieurs titres, comme roi de la Seine, selon Chateaubriand, ou le Napoléon de la Seine pour l'actrice Louise Fusy. Donc cette couronne est emblématique. Et ça nous mène donc à la deuxième partie de l'exposition, qui retrace, jalon par jalon, un peu la relation entre Talma et Napoléon. Et donc toutes les étapes, jusqu'à ce quand Talma vient à Malmaison, faire répéter la jeunesse de Malmaison autour d'Hortense, ou se produire lui-même avec d'autres acteurs sur la scène du petit théâtre à Malmaison.
Bon, on comprend que c'est une exposition très, très riche. Tous les auditeurs corse ou de passage en Corse peuvent profiter de l'exposition jusqu'au 30 septembre prochain. Est-ce qu'il y a d'autres actualités que vous vouliez mettre en avant ?
Alors, pour le 19 octobre, qui est le jour même du bicentenaire de la mort de Talma, ici même, à l'Institut, et il y aura le soir une rencontre autour de deux ouvrages, donc le catalogue de l'exposition d'Ajaccio, mais également la biographie de Talma, par Mara Fazio. Et puis le lendemain, à Malmaison, quelques conférences, des lectures également par un acteur de textes littéraires et épistolaires autour et de Talma, accompagnés de la présentation d'une vitrine présentant certaines des œuvres exposées à Ajaccio qui seront revenues à Malmaison et qui sera visible durant quelques semaines. Voilà nos actualités Talma pour le bicentenaire.
Parfait, c'est très clair. On mettra toutes les informations sur la page émission. Et je signale également que sur le site de France Mémoire, les auditeurs peuvent retrouver une notice au sujet de Talma. On mettra encore une fois toutes les informations sur la page émission. Merci à vous.
Je vous en prie, merci.
Les podcasts de l'Institut de France.